SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Vous êtes avec SBS French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur SBS French. Bertrand Tunganame pour vous accompagner dans ce programme du dimanche 7 juillet. Dans cette édition, retour sur les législatives anticipées en France à quelques heures du deuxième tour du scrutin. Le docteur Romain Fati de l'Australian National University jette un coup d'œil d'historien sur ce scrutin. Et à une semaine de la fête nationale, jour pour jour, nous avons un aperçu des événements marquant cet événement, aussi connu sous le nom de Pasty Day, au Victoria Market, ainsi qu'un concert exceptionnel de Pasty Day au Box Hill Community Center. À présent, retrouvons le docteur Romain Fati au micro de Jean-Noël Ducasse pour une analyse des législatives anticipées en France.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Eh bien, le plaisir de retrouver à nouveau Dr Romain Fati, qui est Senior Lecturer au School of History, au Research School of Social Sciences à ANU, the Australian National University à Canberra. Bonjour, Dr Fati.
Bonjour et merci de me recevoir.
Et vous êtes actuellement en France et on va parler de cette campagne des législatives et beaucoup d'hypothèses pour le deuxième tour de dimanche prochain. D'après ce que je comprends, depuis dimanche dernier, beaucoup des candidats arrivés en troisième position se sont retirés pour tenter d'empêcher le Rassemblement national d'obtenir une majorité absolue. Est-ce que vous croyez que ce barrage va tenir jusqu'à dimanche?
Alors, c'est une bonne question. Et je vais vous répondre un peu une réponse de Normand, oui et non. C'est-à-dire que oui, il va tenir dans la mesure où une fois qu'un candidat s'est désisté, sa décision est finale. Hein, donc on ne va pas revoir des candidats qui se sont désistés revenir. Ce n'est pas possible, il fallait déposer sa candidature. Donc on a dénombré, je crois, le dernier compte, 224 désistements. Hein, dont 134 qui viennent de la gauche et 82 qui viennent du camp présidentiel et du centre, avec trois aussi candidats LR qui sont RN se sont désistés. On va pas revenir sur ces désistements, mais le fait est que on observe maintenant qu'il y aura beaucoup plus de duels que de triangulaires, si bien que le paysage se clarifie. Hein. Il y a déjà 76 députés qui ont été élus, donc ça c'est fait, entre guillemets, et puis il reste maintenant 409 duels dans les 577 circonscriptions, moins les 76 déjà élus, et donc 89 triangulaires. Beaucoup moins de triangulaires qu'attendus, hein, puisqu'on était à plus de 300 triangulaires. Donc le front républicain, entre guillemets, a fonctionné sur le côté élection. Est-ce qu'il va fonctionner dans une nouvelle assemblée? Ça, c'est une autre question.
Docteur Fati, peut-on parler des projections de sièges à l'heure où l'on se parle?
Alors oui, on peut, dans la mesure où les désistements ont clarifié les choses dans les circonscriptions. Alors, comme je le dis souvent, moi je suis historien, je me prononce sur le passé et pas tellement sur le futur, mais parfois le passé peut aider à donner des projections pour le futur. Personnellement, je pense que le RN est en mesure de remporter à peu près 200 circonscriptions, hein, ce qui serait bien moins que ce qui était craint, mais quand même historique au regard des élections passées pour les sièges qui avaient été remportés par le Rassemblement National et avant le Front National dans les assemblées précédentes. Les estimations en ce moment sont à fourchette basse pour le RN, 190, fourchette haute, 220. Le groupe ensemble entre donc la majorité présidentielle entre 110 et 135, donc elle perdrait plus de 100 députés. Les Républicains entre 30 à 50 sièges, encore une fois il y aurait des pertes de députés de ce côté-là. En revanche, le Front Populaire, le nouveau Front Populaire pardon, serait en hausse entre 160 et 180 sièges. Bon, ces prévisions-là, elles sont issues de calculs, de mathématiques par rapport aux circonscriptions. Tout va dépendre des électeurs. Rien n'est joué dans une élection, surtout dans une élection aussi compliquée que les législatives françaises par rapport au mode de scrutin. Et donc cela va dépendre de l'abstentionnisme, ou plutôt de la participation d'abstentionnistes qui d'habitude ne se dérangeraient pas aux urnes et qui la voteraient. Cela va dépendre également, et ça il faut le rappeler, des votants pour l'ancienne majorité présidentielle. Dans les circonscriptions où ces derniers sont privés de candidats et se trouvent face à un duel gauche-extrême droite, où est-ce que ces votants vont aller? On sait très bien que le président Macron a mené une politique plutôt libérale, traditionnellement associée plutôt à la droite qu'à la gauche. On sait également qu'il a pu être élu dès 2017 grâce à des voix de gauche qui, théoriquement et naturellement, devrait se reporter sur le nouveau Front Populaire, mais ça ne constitue pas l'entièreté de son électorat. Donc il y a énormément d'incertitudes vis-à-vis des projections que je viens de vous donner, parce qu'elles vont dépendre de chacun d'entre nous.
Et Gabriel Attal appelle au barrage, même avec un bulletin LFI. Votre avis ?
Eh bien, mon avis, mais il n'engage que moi, et je tiens à préciser à nos auditeurs, je le fais à chaque fois lorsque je parle de politique, que je ne suis affilié à aucun parti politique, ni en France, ni à l'étranger. La position de M. Attal est extrêmement courageuse. Elle s'inscrit dans une position historique en France, que ce soit en 2022, en 2017, et bien évidemment, pour des personnes de notre génération, en 2002, où il s'agissait de dire que tout était meilleur au FN. Et là, on voit très bien que de manière générale, la position de M. Attal est celle qui est partagée par de nombreux Français et surtout de nombreux dirigeants politiques, à l'exception de certains dirigeants plutôt de droite, comme par exemple l'ancien Premier ministre, M. Édouard Philippe, et comme par exemple M. le ministre de l'économie et du budget, M. Bruno Le Maire. Et oui, évidemment, parce que pour ces deux représentants politiques plutôt marqués à droite, cette élection résulte à la fonte comme neige au soleil de leurs députés. Donc ils n'ont pas vraiment intérêt à... Et puis, par ailleurs, ils savent très bien que leur électorat ne serait pas nécessairement porté vers les candidats à l'EFI. Après, il faut bien faire la distinction, et ça c'est très très important, sur les candidats Nouveau Front Populaire, dans chaque circonscription, ces personnes étiquetées Nouveau Front Populaire sont parfois originaires de l'EFI, mais beaucoup plus qu'avant, ils sont originaires du Parti Socialiste, ou des Verts, ou d'autres partis de gauche. Donc, là où certains électeurs auraient peut-être difficulté à voter pour la France insoumise, il faut bien qu'ils regardent de quel parti à l'origine provient leur candidat Nouveau Front Populaire. Et enfin, il faut rappeler que la manière dont un groupe se présente aux élections n'a rien à voir avec la manière dont un groupe politique est organisé à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'on peut voir un Front Populaire uni se présenter aux élections pour gagner des sièges et, une fois élu, se diviser, se scinder pour former un gouvernement qui pourrait théoriquement exclure la France insoumise. Si les socialistes arrivent à avoir de nombreux sièges, si les écologistes arrivent à avoir des sièges au sein du Nouveau Front Populaire, et on sait qu'ils ont négocié à la hausse le nombre de sièges auxquels ils pouvaient prétendre, si la majorité présidentielle ne s'effondre pas totalement, et si les Républicains sont prêts à collaborer, on pourrait envisager un gouvernement de Front Républicain qui exclurait le Front National et qui exclurait la France Insoumise. Alors effectivement, ce serait probablement un gouvernement minoritaire, mais un gouvernement est toujours meilleur que pas de gouvernement. Et donc ce gouvernement, effectivement, serait probablement forcé de gouverner par décret, par 49-3 en réalité, puisqu'il serait en difficulté numérique. Ça fait beaucoup de si, mais on est dans une situation où réellement tout est possible.
Ce que souhaite Monsieur Attal, est-ce que c'est la même chose qu'un vote utile ?
Oui, alors dans le vote utile, il y a un certain degré, comment dirais-je, de une part de jugement dans ce qui est utile et ce qui ne l'est pas. Monsieur Attal, en réalité, il tacle un peu le président de la République qui, avant cette élection, avant le premier tour, avait appelé à voter contre les extrêmes. Je, personnellement, et vis-à-vis de l'histoire que nous connaissons, je pense qu'il est très dangereux de parler des extrêmes et de mettre dos à dos LFI et le Rassemblement National. Effectivement, il y a des errances au parti LFI, effectivement, la figure de Jean-Luc Mélenchon divise, et de ce point de vue-là, il est donc absolument hors de question que M. Mélenchon devienne Premier ministre, ça on le sait, hein. Tous les partis alliés à LFI ont déjà plus ou moins posé cette condition et en ont parlé dans les médias. Bon, exposer ces deux extrêmes dos à dos, c'est quand même très dangereux, parce que la tradition de laquelle est issue le Rassemblement National, anciennement Front National, n'a rien à voir avec celle dont est issue la France Insoumise. Donc, présenter de la même manière un parti d'extrême gauche classique, entre guillemets, ou de gauche dure, avec un parti très clairement issu de l'extrême droite. L'extrême droite a des connotations historiques totalement différentes. Ce n'est pas à moi de rappeler que d'anciens leaders du Front National ont été traînés devant les tribunaux, pour avoir nié l'Holocauste, pour avoir encouragé à la haine raciale. Il n'y a qu'à regarder la famille Le Pen, hein, le père en premier, pour connaître cette histoire qui est quand même très liée à l'effondrement des extrêmes droites après Vichy, que M. Le Pen a essayé de rassembler dans son parti qu'il a créé en 1972 de mémoire. Donc, l'histoire du Rassemblement National est celle d'un parti d'extrême droite dur, raciste, et dont certains cadres avaient collaboré effectivement avec l'ennemi ou se sont retrouvés plus tard à torturer en Algérie. Donc voilà, ce n'est pas du tout la même chose côté LFI, quand bien même on en penserait beaucoup de mal.
Et docteur Fatih, y a-t-il eu ingérence étrangère dans cette campagne des législatives ? Y a-t-il des influences de la Russie sur ces élections ?
Alors, oui et non. Oui, dans la mesure où effectivement elles sont avérées, hein, ça sur Internet par exemple, l'influence des trolls et des bots, etc., ça, très clairement. Mais la Russie n'a pas tellement eu le temps de s'organiser dans la mesure où c'était une campagne express parce qu'elle était régie par l'article 12 de la Constitution qui prévoit que l'Assemblée, une fois dissous, il doit y avoir des élections entre 20 et 40 jours après cette dernière. Donc si on avait eu une campagne effectivement de 2, 3, voire 4 mois, des pays qui ne nous tiennent pas dans leur cœur, auraient effectivement pu s'organiser avec une force de frappe bien supérieure. Donc oui, il y a ingérence étrangère, mais ça malheureusement c'est le lot de toutes les élections contemporaines dans les démocraties que nous connaissons, et pas que la Russie malheureusement. Après, là je pense qu'effectivement vu le délai de campagne, c'était un peu moins marqué que ce ne fut le cas en 2022 ou en 2017.
Et puis, j'ai lu qu'il y avait des possibilités de débordement dans les rues si le RN ne gagne pas la majorité absolue et peut-être même des semaines agitées avec les Jeux Olympiques. Et puis, il y avait ce risque à la guerre civile, comme avait fait allusion le président Macron. Qu'en pensez-vous ?
Très franchement, je n'y crois pas. Alors, je peux me tromper, mais alors, il y a deux choses. La première, c'est qu'effectivement, moi, ça fait plusieurs semaines que je suis en France et j'ai vraiment du mal, hein, et c'est ce que j'explique aux médias anglo-saxons, j'ai vraiment du mal à mettre en parallèle la crise politique majeure que nous vivons avec la vie quotidienne. Je suis allé à Amiens, à Lille, je suis en Bretagne, je suis allé à Paris. Je vois des gens qui mangent des glaces dans la rue, il fait à peu près beau. Il y a les soldes en ce moment, il y a l'euro de football, donc il y a beaucoup de gens dans les bars. La fête de la musique, c'était incroyable cette année. Et donc j'ai vraiment du mal à réconcilier cette image quand même d'un peuple qui n'a pas l'air divisé, qui a l'air plutôt heureux, une inflation inférieure à celle des autres pays européens, un taux de chômage inférieur à ce qu'il a été dans le passé, et la crise politique qui est réellement une vraie crise absolument majeure comme on n'a pas vu depuis des décennies. C'est assez particulier. J'étais là en 2019 lors des Gilets jaunes. Et là, effectivement, il y avait une vraie tension insurrectionnelle, révolutionnaire. Donc, est-ce que j'y crois ? Là, présentement, je ne le vois pas. Est-ce que après une élection, c'est possible ? Je ne pense pas, parce que la majorité des électeurs du Front National en ce moment, c'est un vote ras-le-bol, c'est un vote sanction, ce n'est pas nécessairement un vote, c'est un vote, on va dire un petit vote, vous savez, pour embêter dans les urnes. Moi, je ne pense pas la majorité des électeurs du Front National se lève, vent debout, pour aller faire la révolution. Déjà, ce n'est pas cohérent avec la tradition politique dans laquelle ils s'inscrivent. La dernière fois qu'on a vu ça, c'est le 6 février 34. Et puis, on sait sur quoi ça aboutit. Et puis par ailleurs, je ne pense pas qu'il soit, et c'est peut-être un jugement de ma part, suffisamment politisé pour faire cela. Donc cette situation insurrectionnelle, elle se produira peut-être, mais si elle se produit, pour moi ce serait après l'échec d'un gouvernement tremblant, quel qu'il soit, après plusieurs mois au pouvoir. Pour l'instant, je ne vois pas ceci se produire le 8 juillet ou dans cette semaine qui la suivra. Je peux me tromper, cependant j'espère que je ne vais pas me tromper.
Docteur Fatih, merci à nouveau d'être intervenu sur les ondes de Radio SBS en Australie.
Je vous remercie.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Serait-ce un mirage que j'aperçois en toi ?
C'était Mirage, une chanson de Walter Astral, et à présent une note sportive. Bien en marge de l'Euro 2024, Sébastien Lemaitre et ses collègues de RFI brossent un portrait des étoiles montantes du football.
À la croisée entre deux générations, le saviez-vous, l'écart d'âge cette année entre le plus jeune joueur et le plus vieux est de 21 ans, trois portraits d'étoiles montantes sélectionnés et à tout seigneur, tout honneur. C'est en Allemagne qu'on part en premier, le pays hôte et son jeune talent Florian Wirtz, 21 ans, déjà très bien coté sur les marchés. Il a engrangé les succès depuis le début de sa carrière et à l'Euro, c'est lui qui a inscrit le tout premier but face à l'Écosse dans le match d'ouverture. Pascal Thibault.
Normale Kartoffel auf die Eins. Wirtz.
Des pommes de terre normales en numéro 1, c'est ce que préfère Florian Wirtz. La vidéo en ligne du jeune joueur, avec des images de purée, de frites ou de gnocchi sur la tête, est devenue virale. Des chansons ont été écrites sur le sujet et des t-shirts imprimés. L'intelligence artificielle le place dans le palmarès des joueurs les plus sexy du tournoi et sa copine Alia tourne la tête des supporters. Florian Wirtz fait aussi parler de lui sur le terrain. Il a été sacré meilleur joueur de la Bundesliga durant la dernière saison et a marqué un record de buts au sein de son équipe de Leverkusen, où il évolue depuis 4 ans. À 21 ans, Florian Wirtz est considéré comme un des meilleurs talents du football mondial. À la maison, des ballons traînaient un peu partout. Sa passion est aussi donc une histoire de famille. La sœur de Florian Wirth, Juliane, est aussi une footballeuse professionnelle et évolue en Bundesliga avec le Werder Bremen. Son père a rapidement décelé le talent du jeune Florian. Il est devenu le joueur allemand le plus cher sur le marché avec 130 millions d'euros. Cela devrait suffire pour satisfaire son goût pour les pommes de terre.
Pascal Thibault à Berlin, merci. On part à présent en Espagne avec un record, celui du plus jeune joueur de toute l'histoire de l'Euro. Lamine Yamal n'a que 16 ans, il en aura 17 le 13 juillet, la veille de la finale. La jeune perle du FC Barcelone est le fils d'un papa marocain et d'une maman équato-guinéenne. Il brillait déjà dans son club, il le fait maintenant sous les couleurs de la Roja. François Musso.
On le compare à Vinicius Junior, l'attaquant brésilien vedette du Real Madrid, arrivé au club à seulement 18 ans, de par son explosivité, sa vitesse d'exécution, son habileté. On le compare aussi à un certain Lionel Messi, formé comme lui dès son plus jeune âge à la Masia, l'école de formation du Football Club de Barcelone. C'est en effet la précocité qui distingue Lamine Yamal Nasrahi Ebana, alias Lamine Yamal. Très fort en dribble, en passe décisive et très bon buteur, cet attaquant de l'aile droite occupe une position similaire à celle de la star argentine dès ses débuts. Ce qui en outre le distingue de la plupart des vedettes montantes du football espagnol, ce sont ses origines, à la fois du Maghreb et d'Afrique noire. Il a été élevé dans un quartier ouvrier de Mataró, au nord de Barcelone, et depuis qu'il est cadet, il fascine l'entraîneur du Football Club de Barcelone, Xavi. Ce dernier lui a donné sa chance, c'est désormais avec le maillot rouge de l'équipe nationale qu'il impressionne le monde entier.
François Musso à Madrid, et puis lui a remis les Beatles au goût du jour dans les stades depuis peu pendant les matchs de l'équipe d'Angleterre. Les supporters entonnent la mythique chanson Hey Jude en l'honneur de leur milieu de terrain fétiche, l'espoir des Trois Lions, Jude Bellingham, même si son étoile a quelque peu pâli lors des derniers matchs, Emeline Vin.
C'est lui qui a ouvert le compteur de buts anglais lors de cet Euro dès la première rencontre. Les Anglais n'en attendaient pas moins de Jude Bellingham, leur numéro 10 tout terrain. Depuis sa première sélection il y a 4 ans, le natif de Birmingham se montre à l'aise en défense autant qu'en attaque. Le madrilène de 21 ans est considéré par ses coéquipiers et les commentateurs sportifs comme l'un des joueurs les plus talentueux de sa génération. Les supporters s'attendaient à un Euro phénoménal de sa part après qu'il a aidé le Real à remporter la Ligue des Champions. Mais les performances de Bellingham lors des deux dernières rencontres face au Danemark et à la Slovénie ont enragé les fans des Three Lions. Le milieu de terrain s'est montré effacé, imprécis et prompt à adresser des reproches au reste de l'équipe. D'autant plus inquiétant, il a admis être complètement mort à l'issue de Slovénie-Angleterre.
Vous aimez le foot ? Branchez-vous sur The World Game. Regardez la A-League en ligne, la Coupe du Monde en direct ou les meilleurs moments sur vidéo. Retrouvez les derniers résultats, les nouvelles et les analyses sur theworldgame.com.au ou sur Twitter.
Cette chanson Viva nous est interprétée par Malik Judy. Et c'est le moment d'une autre courte interruption, mais restez à l'écoute car dans un instant, on va parler des événements marquant la fête nationale française ou Bastille Day à Melbourne au Queen Victoria Market, ainsi qu'un concert spécial Bastille Day qui a lieu vendredi prochain au Box Hill Community Center. Mais avant cela, on découvre l'art aborigène, sa place dans la mythologie, la société et la culture aborigène.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Les peuples aborigènes ainsi que les insulaires du détroit Torres s'appuient sur leurs traditions orales en plus de l'art pour transmettre leurs histoires culturelles, leurs croyances spirituelles ainsi que leurs connaissances essentielles sur la Terre. L'art sert également de moyen pour mieux comprendre leur culture unique et leur tradition créative. Cet épisode explore comment les peuples aborigènes ainsi que les insulaires du détroit Torres ont embrassé leurs traditions orales en utilisant différentes formes d'art. L'art indigène est une riche tapisserie englobant un large éventail de styles et de techniques, chacun profondément enraciné dans les territoires, la culture et la communauté des Premières Nations. Marie Watson Traget est une femme Koori et une femme d'eau douce du peuple Wiradjuri. Consultante auprès des Premières Nations et artiste autodidacte, elle est passionnée par le partage de sa culture aborigène. Madame Watson Traget souligne que les gens se font souvent des fausses idées sur ce qu'est l'art aborigène.
Some people have a preconceived idea that art painting is traditional and the only true form of Aboriginal art, but this is not the case and it's flawed thinking. Our traditional art was really not necessarily art, but more about making marks for identification on your tools, etc., or engravings in trees for marking ceremony and burial locations, or body paint, etc., for ceremony.
Elle précise qu'en réalité, la peinture à point n'est apparue que dans les années 1970 avec le mouvement artistique à Papunya, une petite communauté située au nord-ouest d'Alice Springs, dans le désert occidental. C'est de là que des artistes autochtones ont commencé à peindre leurs histoires traditionnelles à l'aide de peintures acryliques sur planche.
There's many styles of Aboriginal art that artists use to convey their stories and their cultures. And you know, really, Aboriginal art is anything an Aboriginal person paints that connects them to their country and their culture and creates for them a sense of connection and belonging.
Madame Watson Traget a commencé à peindre en 2009 pour se détendre d'un stress induit par des études universitaires à temps plein. Mais elle s'est vite rendue compte que l'art était bien plus qu'un simple moyen de calmer l'esprit.
Art to me is very important because as an Aboriginal person, it's about me sharing my stories with other people, keeping my culture alive. And it also supports me connect to my Aboriginal culture and to my country and to my old people and to the knowledge that I learned while I lived and grew up on country with family. So it's very important to me to keep that alive and share my culture with others.
Watson Traget explique que son art est une fusion contemporaine d'art abstrait et de motifs culturels mêlant des lignes fluides et des symboles aborigènes qui traduisent la manière dont ses ancêtres communiquaient en dessinant des impressions et des symboles au sol.
The symbols are really up to the interpretation of the artist that's using them. So if you see symbols, I guess you would never assume that they mean the same thing to another artist.
Pour l'artiste Gabila Rai Bigambu Leorta Yorta Arkeria Rose Armstrong, l'art a toujours fait partie de sa vie. L'art de Madame Armstrong est fortement influencé par ses grands-parents qui étaient tous deux artistes. Sa grand-mère était une aînée Gamila Roy, un peuple vivant à cheval entre la Nouvelle-Galles du Sud et le Queensland. Son aïeule était l'une des dernières peintres sur sable de la région.
She would tell her stories while sitting on the ground, on country, on sand country, and she would tell us stories in the sand. So she would depict her journey and her story through artwork. So a lot of the symbolism and imagery that she would tell us was shared that way. So I then take that imagery and put it onto canvas to share that way.
Et son grand-père, un aîné du peuple Yorta Yorta, lui a appris les techniques d'art traditionnel.
My grandfather paint with ochre and does that through dot work. So he taught me how to paint with dots. So I use a combination of his technique of painting with dots and my grandmother's symbolism in terms of circles and lines and yeah, looking at country from that bird's eye perspective, I suppose, to share a story that way.
Madame Armstrong décrit son art comme un enchevêtrement de ces deux pays. Travailler sur une œuvre d'art lui permet de réfléchir à ce que le pays signifie pour elle, ce qui déclenche aussi de nombreuses émotions.
So many emotions. You know, you have that sense of pride and joy. And when we don't live on country, it's a connection point to reflect on what that country means to us. I think from that emotional perspective is that it's a process. Is that, you know, as you're completing each artwork, emotions come up as you're retelling that story. Thinking about the relationships that are connected to that story.
Elle dit partager son savoir avec sa fille.
To continue culture, you need to share culture and you need to practice culture. To share with our next generation is to make sure that they're always at the table having those conversations. You know, regularly she sits down and paints while I paint or draws while I paint, sits down and listens to the stories whenever I complete each artwork.
Davinder Art, quant à lui, est un artiste dont la famille est originaire de la région sud-ouest du pays Noongar, en Australie-Occidentale. Il a passé son enfance à Adélaïde avant de se reconnecter avec sa culture sur le territoire Ngemba, en Nouvelle-Galles du Sud, plus tard dans sa vie. Monsieur Art s'est buté contre d'importants défis dans sa jeunesse. Il a d'ailleurs quitté l'école à 16 ans, a eu du mal à trouver un emploi et a lutté contre la toxicomanie. Cependant, le soutien et les conseils de ses oncles et de ses frères ont été essentiels pour l'aider à redresser sa vie.
I had a bit of an unhealthy way of dealing with a lot of issues that come through life, and it was really great that I was able to be fortunate enough to meet my uncles and brothers now, who teach me these stories about country. And in those stories, it teaches you how to conduct yourself and all those type of things in a positive light. And so I just put those into my everyday life, and it does make things a lot easier for myself.
Les connaissances de M. Art sont souvent reflétées dans ses œuvres d'art.
Most of the stories talk about Mother Earth and also the ancestors that walked before us, and also our creator Baimi, who lives in the stars. These teachings that I have learned come from New South Wales, so far west of New South Wales. And so I did spend and have been spending a lot of time out there with the community out there, and been learning a lot of knowledge from that area. And that is coming through in a lot of artwork that I do today.
Pour M. Art, l'art est non seulement un moyen de transmettre des histoires à la prochaine génération, c'est aussi une forme de guérison.
Definitely a relaxed state as I am painting. I do a fair amount of reflecting as I am painting. I'm thinking about the design and how it's going to, you know, come together. Only a little bit, but I think for most of the time, you know, like the spirit just really takes over that painting, and the painting kind of just does it by itself. But you know, it's very therapeutic, and yeah, it's really great.
Et pour les personnes non autochtones, l'art peut permettre une meilleure appréciation de la culture unique et des traditions créatives des Premières Nations. Madame Armstrong dit qu'un excellent point de départ est de poser des questions sur les histoires racontées dans les œuvres d'art. Elle aime aller aux expositions de ses œuvres et profite de l'occasion pour échanger longuement avec les visiteurs au sujet de ses œuvres d'art et de l'art en général.
Who is that First Nations person? What are those countries and what do they look like? Once you start asking those questions, you start to see and feel that person. These stories have been passed down generationally, and they will continue to be, just because that's the way that we share our culture. How can we make space to hear those stories?
Pour Monsieur Art, se poser des questions sur l'art indigène peut être un point de départ pour nouer des liens avec les peuples aborigènes ainsi que les insulaires du détroit de Torres.
Be really open. Don't be afraid to ask questions. When non-Indigenous people come to me and ask about my work, a lot of the time they'll say, I don't mean to offend you, and you're not offending me. You know, I'm really glad that you're asking me these questions, because then I can, you know, give you the best possible answer from my knowledge, and learning together as well. If it is something that I don't know, then we can both figure that out together. And within that conversation there, we're building a connection just through that.
Radio SBS en français, en ligne et sur votre smartphone.
Ça, c'était Warrior Up, extrait de l'album Mitch Jams One du chanteur aborigène Mitch Tambo. Et à présent, le 14 juillet, Pasty Day au Queen Victoria Market à Box Hill à Melbourne.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Plaisir d'avoir dans les studios de Radio SBS Anissa Atia, qui est membre du comité du festival de Pasty Day 2024. Va être célébré à Melbourne, dans le Victoria. Bonjour et bienvenue chez nous.
Bonjour Jean-Noël, merci de me recevoir.
Et le festival va débuter le 12 juillet et va durer tout le week-end, le samedi 13 et le dimanche 14. C'est au même endroit que l'année dernière, au Victoria Market.
Oui, c'est exactement ça. On va célébrer la fête nationale avec des crêpes, du fromage, du vin chaud, plein de festivités. En fait, c'est important de mentionner que c'est un festival qui est créé par la communauté française, pour la communauté française, mais aussi les amoureux de la culture française.
Les francophiles.
Exactement. Et donc, voilà, on va vous transporter dans un village français hivernal avec plein d'activités. Donc on a le marché d'hiver, comme vous avez dit, au Victoria Market. Donc on sera au shed C et D, comme l'année dernière. Vous allez pouvoir découvrir des commerces franco-australiens, de la cuisine française, bien sûr, plein d'artistes. On a un programme culturel avec des conférences, des visites guidées, des masterclass. Le festival est aussi adapté aux enfants. Et en plus, c'est pendant les vacances scolaires.
Emmener les gosses parce que c'est bien abrité, même s'il pleut.
Exactement.
Anissa, des nouveautés à signaler cette année? Je sais que les conférences reviennent, les conférences lumière, blanc, rouge et vert.
Exactement. C'est une occasion d'en apprendre plus sur la culture française avec nos conférences Les Lumières, qui couvrent l'histoire, la mode, l'art, évidemment cette année avec les JO, le sport et la sustainabilité, la durabilité, avec un concours de pitch de start-up axé sur la green tech. Le programme complet est sur notre site internet. On a aussi, bien sûr, plein de stands. Hein. On va se régaler avec des crêpes, des croissants, pâtisseries, vin chaud, fromage et plus encore. On a plein d'artistes cette année, comme tous les ans. On a notre walking tour qui est en anglais. Donc, c'est sur les French Icons of Melbourne.
Faites le tour de la ville.
Oui, c'est ça. On fait le tour de la ville. Voilà, c'est un tour guidé en anglais. Et les masterclass, bien sûr. Donc, on en a 5 cette année. Il y a sur le fromage et le vin, avec Long Paddock Cheese et Mosaic Wine. On a le Tour de France des spiritueux avec Serbaco. On va goûter 5 ou 6 spiritueux avec eux. Une sur les parfums français avec Christine Barrault. Une introduction au dessin de mode avec l'illustratrice Suzanne Kerian. Et aussi L'Oréal qui nous rejoint cette année pour une masterclass maquillage, Look and Learn de L'Oréal Group. Donc tout ça, tous les billets pour les masterclass sont disponibles sur Eventbrite et via notre site internet.
Et donc ce sont des événements payants et il faut réserver bien à l'avance.
Il faut prendre les tickets à l'avance, exactement.
Je vois qu'il y a aussi des programmes en ligne.
Oui, exactement. Donc si vous ne pouvez pas nous joindre en personne, vous pouvez participer à des conversations en ligne ou même tester vos connaissances avec un trivia français avec plein de lots à gagner pour les gagnants.
Et autre message que vous aimeriez signaler, Anissa?
Oui, alors évidemment, on invite les gens à venir nombreux nous voir samedi et dimanche au marché. Il y aura plein d'activités, il y aura bien sûr beaucoup de nourriture française, beaucoup de musique et des animations. Et moi, je serai beaucoup derrière le bar à servir du champagne, du vin chaud, du vin. On aura de l'orangina aussi cette année pour ceux qui adorent ça et qui manquent d'orangina ici. Et voilà.
Et je sais que l'année dernière, ça a très bien marché parce que vous étiez bien abrité.
Oui, ça change vraiment cette location avec Market. Il fait froid, même s'il pleut, on est bien abrité et il fait chaud parce qu'on est, on est sous les sheds C et D du Victoria Market.
Et beaucoup de musique pour divertir les gens qui viendront vous rendre visite.
Exactement, oui. Donc voilà, on a un accordéoniste, évidemment, et plusieurs groupes de musique. On a aussi un mime qui sera là avec nous pendant tout le week-end.
Le mime Marceau?
Exactement, oui. Bon, il s'appelle Mimo, mais oui, c'est lui.
Autre chose à signaler?
Oui, donc comme je disais plus tôt, c'est un événement qui est créé par la communauté française. Et donc on est tous volontaires, à part l'équipe événementielle qui organise vraiment le festival. On est... Euh, On est une petite équipe de volontaires et on est constamment en recherche de personnes qui voudraient venir nous aider à continuer à faire vivre ce beau festival sur Melbourne. Donc vous pouvez aller sur notre site internet exactement et nous envoyer un email pour proposer votre candidature pour devenir volontaire pour le prochain festival.
Un rappel du site internet pour que les gens puissent consulter avant de venir au Victoria Market?
Bah oui, bien sûr, c'est www.bastidemelbourne.com.
Anissa Atia, merci d'être venue nous rendre visite.
Merci Jean-Noël. Et je vous vois samedi du coup.
Absolument,
samedi et dimanche. Merci.
Votre communauté, vos conversations. SBS French. SBS Food a tous les ingrédients pour votre prochain repas. Vous y trouverez des milliers de recettes issues des cuisines du monde. Essayez les petits plats des experts de SBS Food et regardez comment ils les réalisent pas à pas. sbs.com.au/food. Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Le plaisir d'avoir Keira Achefa qui est notre invitée aujourd'hui. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Et vous êtes venue nous parler d'un concert organisé par The Boîte pour célébrer Bastille Day le vendredi 12 juillet. C'est au Box Hill Community Center à Melbourne. Parlez-nous de ce concert que vous présentez avec le groupe Langue de Chat.
Alors c'est la deuxième fois. Pour nous, c'est la deuxième fois qu'on présente un concert avec la boîte. D'ailleurs, notre premier concert était avec la boîte il y a un an. Et ils nous ont invités à nouveau pour célébrer le 14 juillet, comme on dit en français, le 14 juillet, donc Bastille Day.
Et parler de ce groupe, vous dites qu'il existe depuis un an?
Un an, oui, peut-être un tout petit peu plus d'un an. Beaucoup de travail. C'est le fondateur du groupe, Anthony Schultz. C'est un accordéoniste. Et en fait, il voulait diriger un ensemble. Il voulait en fait créer un ensemble dont il pouvait être le directeur et dans lequel l'accordéon était central, en fait. Et ça, c'était très important pour lui. Et puis aussi, son objectif, c'était de créer quelque chose que le grand public comprendrait, qui soit accessible aussi. Quelque chose d'un peu original, car les groupes français ici, en général, font beaucoup de musique, un peu de swing, un peu de, surtout du Django Reinhardt.
Manouche.
Voilà, manouche, du jazz manouche. Et en fait, donc, on a décidé de faire musette, donc de la musique musette. Et donc ça, c'était le deuxième objectif. Et aussi, ce qui était important pour lui, justement, c'est d'avoir une chanteuse ou un chanteur français. Donc, il m'a trouvé. Et en fait, pour moi, c'était très intéressant parce que, en fait, j'aime beaucoup la chanson française des années 40, des années 30, 50, 60. Donc, j'ai toujours beaucoup aimé cette musique. Et donc, en fait, ça crée, je pense que jouer de la musique des années 80 avec de l'accordéon musette, je pense que ça n'aurait pas trop marché. Donc, voilà.
Et on n'a pas parlé des autres membres du groupe.
Oui. Alors, les autres membres, Jack Pantazzi. Jack Pantazzi, c'est un guitariste de jazz. Il est très, très, très apprécié. Il travaille avec beaucoup de groupes ici à Melbourne. Il est aussi éducateur. Et en fait, il permet justement de faire des duos aussi, des duos lorsque l'accordéon, c'est un instrument quand même qui est très... je dis imposant, pas dans le sens négatif, mais ça nous permet de jouer des morceaux beaucoup plus doux avec la guitare. Et puis, il dirige ses propres ensembles aussi, bien sûr. Et puis, Anton Schultz, c'est en fait le fils d'Anthony. Il est très jeune, il a 22 ans, mais il est aussi très, très... c'est un très bon... contrebassiste, donc il joue du jazz et en fait il vient de l'académie James Morrison en Australie du Sud.
Voilà.
Donc ce sont les deux autres membres du groupe.
Peut-on parler du répertoire que vous allez présenter le 12 juillet?
Le 12 juillet, on joue beaucoup de, donc au niveau de la musique, donc on a des morceaux instrumentaux, et l'inspiration c'est Richard Galliano, Guy Wieser, Marcel Azzola, et puis au niveau des chansons, on présente des chansons de Juliette Gréco, Jeanne Moreau. On va aussi loin, enfin, dans le passé, on va Lucienne Delisle, Caro Vauquer. Et ensuite, bien sûr, des gens un peu plus connus, comme bien sûr Édith Piaf, parce que on ne peut pas
fêter la Bastille sans Édith Piaf.
Sans Édith Piaf, bien sûr. Donc, quoi d'autre? Oui, on a un peu du Gainsbourg aussi, et puis du Yves Montand. Voilà quoi.
Et ce partenariat avec The Boîte, c'est une première pour votre groupe?
Alors l'an dernier, donc on a fait le premier concert l'an dernier, donc à Box Hill Community Center, et c'était en décembre l'an dernier.
Ouais.
Et en fait, ça s'est très très bien passé. C'était notre premier concert. Je pense qu'ils ont eu une audience assez. Une très bonne audience. Et puis, on a été très appréciés. Donc, je pense que c'est pour ça qu'ils nous ont invités une deuxième fois à une date assez stratégique. Donc, on était très très contents.
Parlez du Box Hill Community Arts Center. Il peut accueillir combien de monde, combien de gens?
Alors écoutez, je ne sais pas vraiment. Je pense
c'est une
que
grande
quand
salle?
C'est une assez grande salle quand même. Ouais. Je pense que plus d'une centaine de personnes, oui, peut-être 120. Voilà, je me pense qu'on a eu 80 personnes, 75 à 80 personnes la première fois qu'on a joué là-bas. Et en fait, c'est quelque chose de très bien pour nous parce qu'on n'était pas du tout connus. Donc on n'est toujours pas très connus, mais on a joué au Port Fairy Festival au mois de février. Et puis on continue à jouer régulièrement maintenant à Melbourne.
Et vous faites beaucoup de concerts? Vous donnez beaucoup de concerts dans le Victoria
ailleurs
en Australie?
Depuis qu'on a commencé, en fait, oui, quand même. Là, on a le Paris mm-hmm. Cat Jazz Club. Donc, on va jouer ce vendredi.
À Fitzroy?
À Fitzroy. Non, à Paris Jazz Cat, c'est dans le CBD.
Au nord de
Melbourne. Open Studio. On a joué à Open Studio à Northcote il y a deux semaines. Ouais. Et puis, on joue ce vendredi à Paris Jazz Club. Et puis, donc, vendredi prochain avec La Boîte, donc The Boîte, à Box Hill. Et puis, dimanche 14 juillet, donc au Victoria, Queen Victoria Market.
Dans le cadre de Bastille Day.
Voilà, tout à fait.
Et ouais, c'est le gros festival dans Victoria.
Et là, c'est la première fois pour nous, donc je pense que ce sera une très bonne expérience aussi pour nous exposer un peu plus à une audience un peu plus large.
Australien, francophile, francophone.
Et au public francophone aussi, ça nous intéresse beaucoup. Je pense qu'on a eu des Français en fait qui sont venus à des spectacles et qui ont beaucoup aimé. Donc je pense des Français nostalgiques qui vivent ici depuis très longtemps. Voilà. Et puis on a aussi joué à Castlemaine et mm-hmm. on a un autre concert à Castlemaine au mois d'août.
Opérale, ouais.
Voilà. Et puis ensuite on en a un autre à Wesleyan au mois de novembre aussi. Donc on a quelques dates quand même, donc c'est très bien. Puis on pense justement jouer aussi bien sûr dans d'autres états d'Australie.
Donc c'est un projet pour l'avenir.
Pour l'avenir, oui. Et puis après, bon, international, mais on verra ça plus tard.
On va profiter de l'occasion de votre présence ici dans les studios pour peut-être parler un petit peu de vous-même. Vous êtes marionnettiste, d'après ce que je comprends, chanteuse, danseuse de buto et créatrice de théâtre.
Oui. Oui.
Racontez-nous.
Oui, beaucoup de choses. En fait, j'ai toujours aimé la chanson, j'ai toujours aimé chanter, mais j'ai un peu laissé ça de côté pendant plusieurs années. En fait, je me suis penchée sur le théâtre et sur le théâtre visuel. Je suis prof aussi, je suis professeure de français et d'anglais. Et en fait, donc au départ, j'ai travaillé, il y a très longtemps, j'ai travaillé dans des théâtres de musique expérimentale. Et donc, on allait un peu la danse, le mouvement, le théâtre physique et puis la musique. Et ensuite, quand je suis arrivée à Melbourne, en fait, j'ai développé ma compagnie Articulate. C'était une compagnie de théâtre de marionnettes que l'on faisait donc en français et en italien. Donc, on a fait la tournée des écoles. Et
les tournées à l'étranger.
Bien sûr, oui, c'est vrai, j'ai oublié, oui, on est allé à...
En France?
On est allé en France, c'était avec le Black Hole Theatre Company, et avec qui nous sommes aussi allés aux États-Unis, et avec ma compagnie, on est allé en Thaïlande, voilà, c'est ça, en Thaïlande.
Ouais, en Asie.
Voilà, en Asie. Et puis j'ai aussi travaillé avec cette compagnie, donc je faisais tourner cette compagnie ici à Melbourne dans beaucoup d'écoles. C'était un travail très très fatigant, donc j'ai mis fin à cette aventure et puis aujourd'hui je me penche beaucoup plus sur mon activité artistique. Et donc je crée des spectacles qui combinent un peu la danse et puis la marionnette, donc des théâtres visuels. Et voilà, j'ai aussi eu la chance de travailler avec l'opéra de Victoria ici à Melbourne sur des spectacles. Et puis voilà, donc depuis récemment, j'ai fait mon dernier spectacle l'an dernier, donc un spectacle de danse buto et de marionnettes à l'Institut postcolonial ici. Et puis là, depuis un an, c'est vrai que je me concentre un peu plus sur le groupe, sur la musique, mais avec d'autres projets de spectacle pour l'avenir.
Kera Achefa, merci d'être venue nous rendre visite et on vous souhaite les meilleurs vœux pour célébrer Bastille Day.
Merci beaucoup.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
C'est tout pour votre programme en français de ce dimanche après-midi. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec le français sur SBS Audio, mardi prochain à la même heure. Bon après-midi, bonne fin de semaine et à très bientôt.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.